première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
A parte il fatto che ci vedere quando scadono questi portodarmi, comunque...
Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par où dire ? Après la mort du grand-père de Perrine Socal, la famille va retrouver une mallette verte dans le grenier. Cette mallette renferme des documents d'archives qui vont la mener vers une histoire familiale cachée et vers l'arrière-grand-père, Émile Socal. C'est un marchand d'art viennois et juif qui aurait sauvé des objets religieux des mains des nazis, et cela avant la Deuxième Guerre mondiale. Sa femme Maria, quant à elle, serait morte dans des circonstances suspectes. Alors Perrine Socal est partie sur les traces de ses arrière-grands-parents en emmenant sa famille entre Bruxelles, Vienne et Innsbruck. Et c'est le moment le plus passionnant que cette manière qu'elle a d'embarquer tout le monde au musée, au cimetière, et on la suit avec le même enthousiasme qu'eux. La Mallette Verte, c'est une série documentaire réalisée par Perrine Socal, produite par le XARA avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On écoute le premier épisode et les deux autres lundi et vendredi prochain.
D'aussi loin que je m'en souvienne, mon nom attire l'attention.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Perrine.
Je m'appelle Perrine.
Perrine comment ?
Perrine Socal. S-O-K-A-L.
Socal comme bocal ? Perrine le bocal. Perrine le bocal.
N'importe quoi.
Ça veut dire quoi, socal ?
Socal, ça veut dire faucon.
C'est ce que mon grand-père m'avait toujours dit.
Ça vient de Pologne.
Moi, ça me plaisait plutôt bien. Mais ce que mon grand-père ne m'avait jamais dit, c'est que Socal, c'est aussi le nom d'une petite ville en Europe de l'Est, aujourd'hui en Ukraine. La ville de mes ancêtres. En portant ce nom de famille, je porte avec lui le mystère de notre histoire familiale. Une histoire que mon grand-père n'a jamais voulu raconter. Mon grand-père s'appelait Gérard. Il est venu d'Autriche, en Belgique, en 1939, lorsqu'il avait 12 ans, avec son père et ses deux frères. Et ce jour-là, il a fermé un chapitre de sa vie. Il a enfoui son histoire dans une petite boîte pour ne plus jamais y toucher. Ou plutôt, dans une mallette. Une mallette verte qu'on a retrouvée après sa mort. Je suis retombée sur une vieille cassette VHS d'une réunion de famille dans la maison de mes grands-parents. C'était à la Noël 1994. Ma tante Geneviève essaye tant bien que mal de réunir tous les petits-enfants pour la photo de famille annuelle. Mon grand-père appuie sur le bouton de son appareil photo pour capturer sa petite famille. Mais derrière le brouhaha des réunions de famille, derrière les blagues et les chamailles, il y avait surtout un grand silence. Celui du passé de mon grand-père. Nous, on l'a toujours appelé Gérard. Mais sur sa carte d'identité, il s'appelait en fait Gerhard. Il est arrivé à Bruxelles en 1939 avec son père Émile et ses deux frères, Raoul et Henri. Mais les raisons de leur départ et leur enfance à Vienne, tout ça, ça restait très mystérieux. Seuls quelques éléments du passé de mon grand-père ont percolé. Ses lectures de De Gaulle et de Churchill, qui témoignaient de sa fascination pour la guerre, peut-être d'un besoin de la comprendre. Et puis, ses goûts musicaux aussi. J'en retrouve les traces quand je retourne dans sa maison, qui est restée dans la famille.
Lui, c'était Beethoven, notamment la 5e symphonie, puisque il est né dans la vallée où Beethoven a composé la pastorale.
Étienne, mon père, fils de Gérard.
Donc tu as des Beethoven en triple, quintuple exemplaire.
Voilà. Mais je me demande si je ne pourrais pas mettre l'autre, parce que c'est quand même... Je devais une fois changer l'aiguille de ce truc.
Je pense qu'il y avait dans les familles, et je crois que c'est encore vrai, il y a des choses qu'on ne partage pas par pudeur.
Geneviève, ma tante, fille de Gérard.
Et donc quand on lui demandait, ben, tiens, raconte-nous un peu comment c'était, il ne racontait rien, il disait c'est du passé, il faut se tourner vers l'avenir. En tout cas, son frère Raoul, apparemment, moi d'en avoir parlé avec mes cousins, il avait la même chose. Hein. Chaque fois qu'on essayait de savoir quelque chose... Il ne répondait pas, quoi. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé chez lui, qui lui a dit qu'il le connaissait de Vienne, etc. Et l'oncle Raoul a dit que ce n'était pas vrai, qu'il ne se connaissait pas, etc.
Annie, ma mère, belle-fille de Gérard.
J'ai vécu une fois, je pense, une scène où c'était dans une réunion de famille et on a posé des questions. Je ne sais plus qui a posé les questions. Et il s'est énervé en disant « Mais ça suffit, tout ça !»
Mais pourtant, il a quand même laissé cette manette verte derrière lui.
Oui, mais je pense que pour lui, ça faisait un peu partie de sa mémoire, de ses souvenirs, qu'il n'a pas complètement effacé. Par exemple, rien ne lui faisait plus plaisir, surtout la première fois, quand on lui a fait un vrai Apfelstrudel, comme il avait connu dans son enfance. Il avait ses yeux qui pétillaient, hein. Donc, manifestement, il y avait certains souvenirs d'enfance qui étaient heureux chez lui et qui faisaient plaisir à retrouver. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a gardé la mallette.
Après la mort de mon grand-père, en 2009, mon père, mes oncles et mes tantes vident la maison. Et là, il tombe sur une mallette verte. Une mallette remplie d'archives familiales. Elle se trouve aujourd'hui chez ma tante Martine et mes cousins.
Donc voilà, la boîte verte.
On dirait un peu, ouais, une malle de guerre, un peu. On dirait que ça vient de l'armée, un peu.
Et c'est quoi? C'est ce que les militaires avaient pour ranger leurs affaires?
On n'est pas sûr,
ce qu'on s'est dit. Il faut que je prenne une photo.
Prends une photo, on peut faire une recherche. Hein. Attends, tu... Regarde, parce que même la clé a peut-être une signification. Hein.
C'est une petite malle métallique, d'un vert foncé, à la peinture encore intacte. Il y a une poignée et une serrure qu'on ouvre avec une jolie clé de style ancien.
En fait, il y a des avis de domiciliation. Il y a vraiment de tout, quoi. Et ça couvre une grande période. Ça couvre la période de Vienne à la période jusqu'aux années 50, 60 même.
Oui, les années d'école en plus de grand-mère et grand-père. Hein. Tu as les bulletins de notes, tu as tout.
Je me souviens un peu parce que je ne me suis pas plongée depuis longtemps, mais il y a plein de choses différentes, quoi.
Toucher des doigts le passé de mon grand-père, et notamment ses documents en allemand, ça rend tout le mystère dans lequel nous avons grandi encore plus tangible. Les non-dits, le passé caché. Tout ça prend forme devant mes yeux pour la première fois. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une partie des documents de la mallette. Parce que la majeure partie des documents concerne quelqu'un d'autre. Le père de mon grand-père. Mon arrière-grand-père, Émile Sokal. Le plus ancien document au nom d'Émile est en polonais. Il est établi à Lemberg en 1901 et s'intitule « Document d'immatriculation israélite ». Émile était donc juif. Cette information était totalement neuve pour la famille. Il y a aussi une décoration militaire à son nom, la Croix de Fer, décernée en 1918 par Franz Salvator de Habsbourg, le beau-fils de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Sissi. Je trouve ensuite beaucoup de documents en allemand établis à Vienne, notamment son certificat de mariage avec mon arrière-grand-mère, Maria Engel. Et enfin, datant d'après la guerre, des factures de tableaux qu'Émile a vendues à des galeries d'art et au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Mais pourquoi mon grand-père Gérard a-t-il gardé ces documents sur son père Émile ? Ces documents, ce sont autant d'indices sur ce qu'il n'a jamais voulu raconter. Et puis, ils ont aussi quelque chose de fascinant, de quasiment envoûtant, comme un message venu tout droit du passé. Ils me crient d'en faire quelque chose, d'en percer leur mystère. Alors tout ça m'a donné envie d'une chose. Me plonger dans l'histoire de cet ancêtre, mon arrière-grand-père, Émile Sokal, marchand d'art à Vienne. Alors oui, je vous déroute. J'ai commencé en vous parlant du secret de mon grand-père, un secret abrité dans une mallette verte. Mais cette mallette, elle m'a mené tout droit vers mon arrière-grand-père et son histoire fascinante. On peut se demander s'il est bien légitime de vouloir déterrer ses secrets, alors que mon grand-père a pris soin de les cacher. Mais est-ce qu'une histoire n'appartient qu'à ceux qui l'ont vécue ? Et puis, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette mallette une sorte de message laissé par mon grand-père. Une réponse aux questions qu'on lui posait. Et peut-être même aussi un jeu. Un jeu de pistes vers nos origines familiales. J'ai donc décidé de vous emmener sur les traces de mon arrière-grand-père, Émile. De récolter les souvenirs de la famille et les rares informations sur notre passé. De donner vie aux documents d'archives et de chercher les réponses aux questions qu'elles posent. J'ai décidé de faire de cette histoire la mienne. Et le jeu de pistes commence avec une lettre manuscrite d'Émile, écrite en 1944. Elle résume son histoire incroyable.
Bruxelles, le 2 octobre 1944. À Monsieur l'administrateur de la Sûreté publique.
Dans la mallette verte, il y a cette lettre de mon arrière-grand-père, Émile, qui date de la fin de la guerre, en 1944.
Je, sous-signé Sokal Émile, prie de bien vouloir prendre en considération les faits suivants. Le 6 février 1939, je suis arrivé en Belgique comme réfugié politique autrichien.
Comme l'Autriche a été annexée par l'Allemagne en 1938, c'est ce qu'on appelle l'Anschluss, il était considéré comme citoyen allemand. Et être allemand, en 1944, dans un pays allié, c'était pas bon. Il devait donc justifier sa présence en Belgique, et c'est le but de cette lettre.
En février 1940, je comparus devant le tribunal pour réfugiés politiques à la Sûreté publique, où j'ai prouvé que je fus poursuivi par la Gestapo en Autriche, en raison de mon activité pour l'Église catholique, et où ma qualité de réfugié politique fut établie. Je suis né le 21 octobre 1891 à Lemberg, en Pologne. Et quoique je sois de religion catholique, je fus considéré comme juif d'après les lois racy-hitlériennes. Mes trois fils, Henri, Raoul et Gérard, tous les trois nés à Baden, furent considérés, eux, comme demi-juifs, vu que ma femme était arienne, toujours d'après les mêmes lois. Tous ces faits exposés sont consignés à la Sûreté publique dans le dossier numéro A343-436.
Qui était mon arrière-grand-père, Émile Sokal? Parmi tous les documents de la mallette, cette lettre me captive tout de suite. C'est la seule écrite de la main d'Émile. Et c'est peut-être mon contact le plus intime avec mon arrière-grand-père. Alors j'ai eu envie de parler de lui avec quelqu'un qui l'a bien connu. Émile a eu trois fils. Il y avait mon grand-père, Gérard, le plus jeune, je vous en ai déjà parlé. Et il y avait aussi Raoul et Henri. Alors tous les trois sont morts aujourd'hui, mais la femme de Raoul, Marie-Thérèse, elle est encore en vie. Et elle a bien connu Émile, qui était donc son beau-père. C'est la fille de Marie-Thérèse, Anne, qui m'accueille.
Très bien, déjà en train d'enregistrer.
Ben oui.
Mon est là.
Bonjour. Elle a grandi.
J'ai grandi ?
Oui.
Et vous êtes ici, c'est parce que je suis debout et vous assise, non ? Et j'ai aussi des chaussures à talons.
Oui, d'accord. Donc, voilà.
Ça va bien ?
C'est un ustensile.
C'est un ustensile pour enregistrer.
C'est un micro.
Un micro,
pour savoir.
Je peux ?
Oui, bien sûr.
C'est enregistré. Silence en tout.
J'ai commencé à parler avec Marie-Thérèse de sa vie avec son mari, Raoul. Lui non plus ne parlait jamais de son passé, exactement comme son frère, mon grand-père. Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est ce qu'elle savait sur mon arrière-grand-père, Émile. Elle le rencontre peu après la guerre, en 49, quand elle commence à fréquenter Raoul. Et elle en apprend un peu plus sur son histoire.
Votre beau-père, il était comment, Émile ?
Paisible et bienveillant, je ne peux dire que ça.
Mais vous l'aimiez bien ?
Oh oui, j'aime beaucoup mon beau-père. D'ailleurs, bon, quand il est tombé malade, c'est chez nous qu'il est mort, réellement, nous l'avons pris. Non, il était adorable, mon beau-père. Je m'entendais très très bien avec lui. Oui.
Quelle relation il avait avec ses fils ?
Il les avait protégés, il les avait nourris. Il faisait beaucoup de goulash. Je n'aime pas la goulash, mais enfin, je mangeais ça héroïquement.
Et il y avait une relation plus ou moins affectueuse, proche, entre le père et ses fils ou...
Non, certainement affectueuse, mais pas démonstrative, si vous voyez ce que je veux dire. On sentait très bien qu'il était là, responsable, bon, mais plein d'humour. Hein. Il était très drôle, très cultivé, bien entendu. Bon, enfin, bon, en fait... Son métier d'expert en art, alors qu'il était ingénieur civil et qu'il aurait pu continuer sa carrière chez Skoda, puisque bon, c'était chez Skoda qu'il avait commencé. Non, ça c'était par choix, par goût. Je pense que bon, sa galerie à Vienne marchait bien. J'ai encore une photo ici, si tu veux.
Ah oui, je veux bien voir après. Ou maintenant, oui, très bien.
Ah, une photo de Laurent France là-bas.
Oui.
Le père Sokal, Henri, Gérard et Raoul, mon mari, et leur mère. C'était une très jolie femme, d'ailleurs. Mm-hmm. Je pense que quelqu'un a dû te le dire quand même. Le père Sokal avait eu des ennuis avec les nazis parce qu'il avait planqué des objets religieux de valeur au moment où les Allemands sont entrés en Autriche. Bon, à ce moment-là, il avait des relations d'affaires à Bruxelles, il en avait à Londres, il avait une galerie en Autriche, donc c'était à Baden, Baden-Baden, mais qui avait une antenne à Bruxelles et une antenne à Londres. Ils ont voulu rejoindre Londres et se sont trouvés, c'était pas l'endroit idéal, à Dunkerque. Je ne sais pas si tu connais encore un peu l'histoire de la guerre. La priorité, c'était de rembarquer les troupes anglaises et françaises parce que les Allemands avaient envahi la France. Et tout ça était entassé sur des plages à Dunkerque. Bon, lui n'a pas pu prendre place, de sorte que, bon, ils sont rentrés à Bruxelles. pas de carte d'alimentation. C'est la clandestinité la plus totale, c'est-à-dire, bon, ils ne bouffaient pas à leur faim. Ils ont eu faim, ils n'avaient pas de carte d'alimentation. Or, bon, qui n'avait pas de carte d'alimentation devait se débrouiller au marché noir. Et ça, ça coûtait bonbons. Et je pense que bonbons, il n'y avait pas. Je rappelle encore qu'ils habitaient un appartement misérable, mais alors misérable, rue Botanique, où ils étaient entassés. C'était une espèce de maison de rapport où il y avait des réfugiés clandestins. Bon, il y avait une dame autrichienne qui était là, ou hongroise, qui habitait plus haut, qui venait vaguement leur faire le ménage. Le père Sokal faisait la cuisine. Bon, c'était pas très présenté, comme on dit, mais c'était bon.
De marchand d'art cultivé, travaillant pour l'une des plus prestigieuses galeries de Vienne, Émile avait donc tout perdu en fouillant. La famille avait dû quitter Baden bei Wien, une jolie bourgade thermale bourgeoise au sud de Vienne, pour se retrouver dans un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles, parmi d'autres réfugiés. Là, Émile a survécu en vendant ses tableaux et en jouant de son expertise dans l'art.
Bon, il y avait pas mal d'Israélites qui avaient des collections. Comme il était, apparemment, il était connu comme expert, il les mettait en pension, il faisait son expertise. Moi, je me souviens d'un canapé crevé, et sur le dos, il y avait un corège, plus authentique que sa tumeur. Et en plus, il avait quand même des relations dans le monde de l'art, des critiques d'art en Belgique, de sorte que, il faisait des expertises. Les Juifs vendaient évidemment leurs tableaux.
Sous l'occupation, nous avons évité tout contact avec les autorités allemandes, sauf pour ma libération du port de l'étoile juive. Grâce au fait que mes fils étaient considérés comme demi-juifs et donc indignes d'être incorporés dans l'armée hitlérienne, et que, heureusement, les Allemands ne firent aucune enquête sur les réfugiés en Belgique, et de plus, comme nous vécûmes très retirés, nous avons échappé aux instigations des Allemands. Ma conduite sous l'occupation était toujours anti-allemande et loyale envers la Belgique. Fait que je puis toujours prouver par de nombreux témoignages.
Marie-Thérèse m'a expliqué que si Émile avait pu échapper aux Allemands, c'était aussi grâce à ses relations en Belgique.
Mon beau-père avait fait la guerre de 14 dans un état-major où on ne faisait pas grand-chose et s'était fait des tas de relations. À ce moment-là, la Hongrie faisait partie de l'Autriche-Hongrie, donc ils étaient côté allemand et ils avaient retrouvé à la commandanture de Bruxelles des gens qu'ils avaient connus à ce moment-là dans les états-majors, où ils disaient « mangez fort bien » d'ailleurs, parce qu'on avait tous les grands chefs de Budapest. Et on ne faisait pas grand-chose, comme dans tous les états-majors.
Et ces relations-là lui ont servi pendant la guerre.
Ah ben oui, c'est comme ça, il est retombé sur des gens qu'il avait connus, avec qui il avait fait la guerre. En 14, donc à ce moment-là, ça fermait les yeux. Oui, ils ont eu de la chance, ils ont eu des complicités. En tout cas, on a fermé les yeux.
Émile avait donc su naviguer à travers les circonstances de la guerre pour survivre avec ses trois fils. Et il avait réussi à échapper au port de l'Étoile grâce à ses relations à la commandanture.
J'ai rendez-vous avec Barbara.
Oui, elle est là, elle vous attend.
Super.
Ah, bonjour, Perrine, c'est ça?
Oui, c'est ça, bonjour Barbara.
Perrine, bonjour, enchantée.
J'ai montré la lettre d'Émile à Barbara Dixon, de la Fondation de la mémoire contemporaine qui documente l'histoire de la vie juive en Belgique.
Quand Émile arrive en Belgique, quelle est la situation à ce moment-là?
Donc on est en février 1939, il arrive de Vienne, donc c'est après l'Anschluss, donc après mars 1938, c'est aussi après la nuit de cristal, et donc la situation en Autriche est déjà extrêmement compliquée, et avec peu de possibilités de vivre et de survivre, et aussi peu de possibilités de fuir. Donc il faut laisser ses biens derrière soi. Donc c'est un choix très très difficile qu'il a dû faire. La guerre, ça se sent. La Belgique ne veut absolument pas de cette guerre-là. Hein. Elle a vécu 14-18. Et il arrive dans un pays où il y a des tensions politiques vis-à-vis de cette Allemagne-là, vis-à-vis de la position qu'il faut adopter. Et tout ça sur fond de crise économique. Nier le fait qu'il y ait, un esprit antisémite, ce serait faux. en gros. Parce que on voit d'ailleurs dans les documents, je ne sais pas si c'est le cas dans les documents que vous avez consultés, mais dans les documents de la police des étrangers, que parfois, même si c'est anticonstitutionnel, on remarque que le réfugié est juif et de religion israélite. Donc on intègre quand même cette idée-là de plus en plus. Il y a l'ordonnance du 28 octobre 1940 qui va statuer, qui va donner la définition, donc identifier le juif. Et donc, on va contourner toute la difficulté de ce que c'est que la judéité en donnant une définition toute administrative et basée en fait sur des principes raciaux. Alors, qui est juif ? Celui qui a trois grands-parents juifs, ce qui est le cas d'Émile. Toute personne qui répond à cette définition et qui a plus de 15 ans doit ensuite s'inscrire dans un registre qui est tenu par la commune où il réside. Et là, normalement, Émile répond à tous ces critères-là. Donc, il faudrait vérifier si Émile s'est inscrit au registre des Juifs.
La réponse est non.
Donc, vous voyez, il est assez conscient du danger. Il a vécu quand même les persécutions. Il faut bien comprendre que ça a été très violent à partir de l'Anschluss, à partir de mars 1938. Ce qui s'est passé à Vienne est d'une violence inouïe, les violences donc envers les Juifs. Donc il a dû être témoin de tout cela. Donc il sait quand même quel est le sort qui est réservé aux Juifs. Il a probablement aussi encore des contacts avec des personnes demeurées là. Donc il est quand même assez conscient.
Comment est-ce que vous imaginez, Émile, sur base de ses décisions, de ses stratégies, qui pouvait être Émile ?
Ce que je vois, c'est un grand bourgeois, bien installé. Je m'imagine un homme cultivé. Et voilà, et tout ça, toute cette vie bien ordinaire auquel beaucoup de personnes aspirent, est bousculée et bouleversée par l'histoire avec un grand H.
Mes fils, Gérard et Raoul, continuèrent leurs études à l'Institut Saint-Louis et à l'Université de Louvain, où Raoul obtint le grade de candidat ingénieur civil, tandis que Henri termina toutes ses études d'ingénieur à l'École centrale des arts et métiers de Bruxelles. Les instituts précités sont toujours prêts à reconnaître la conduite exemplaire et loyale de mes fils. Je me permets aussi d'ajouter que je suis issu d'une famille polonaise, dont un de mes cousins fut ministre en Pologne, et que, déjà pour cette raison, mon attitude anti-allemande est naturelle, d'autant plus que mon éducation fut entièrement polonaise. En raison de ces faits, je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à rester définitivement en Belgique afin de permettre à mes fils la continuation de leurs études et que je puisse m'y établir après la liquidation de mes biens en Autriche et en Angleterre. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments très respectueux, Émile Sokal.
Émile ne quittera jamais son appartement dans lequel ils ont vécu chichement. Sauf lorsqu'il tombe malade et est recueilli par son fils Raoul et Marie-Thérèse. Il meurt en 1953, criblé de dettes. Ses trois fils doivent refuser son héritage. Mais grâce à l'éducation qu'il leur avait offerte, les trois frères ont pu se recréer une situation et se refaire un nom. Mais la lettre pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'Émile avait pu faire pour rendre service à l'Église et finir poursuivi par la Gestapo? Aucun autre document de la mallette n'y répondait. Mais dans cette lettre, Émile y avait aussi laissé un indice.
Tous ces faits exposés sont consignés à la Sûreté publique dans le dossier numéro A343-436.
Et cet indice n'avait pas échappé à quelqu'un d'autre dans ma famille, Manu. Pour mes recherches, je commence par recueillir les informations de la famille. Et comme Émile a eu trois fils, j'explore ces trois branches familiales. Gérard, mon grand-père, était le plus jeune des trois fils d'Émile. C'est lui qui avait laissé la mallette verte derrière lui après sa mort. Le frère du milieu, c'était Raoul, le mari de Marie-Thérèse, celle qu'on a entendue à l'épisode précédent et qui a bien connu Émile. Et le frère aîné, lui, s'appelait Henri. Henri, lui, avait été tout aussi secret sur son passé que ses deux frères. Et quand son fils, Manu,
découvre dans la lettre de la mallette verte que son père avait des origines juives, ça lui a donné envie d'approfondir les recherches. Et c'est en suivant les indices laissés dans la lettre d'Émile qu'il a fait de nouvelles découvertes. C'est de cela que je viens lui parler aujourd'hui.
Quel accueil!
Salut Mani, ça va?
Hello.
Ça va, désolé, j'étais retenue par le boulot.
C'est pas grave. Est-ce que tu veux un peu d'eau pour...
Ah oui, je veux bien, volontiers.
Tout ça tombe sur la fin, Perrine.
Manu a mené son enquête sur Émile en compagnie de sa fille, Catherine.
Comment ça a commencé tout ça?
Parce qu'on a bien un peu enquêté et donc ça avait commencé lors d'une réunion à Scri et Benoît avait emmené sa fameuse malle verte.
Je me permets d'intervenir. Je ne pense pas que non.
Si, parce que dedans, il y avait le document avec le fameux numéro.
Enfin, on ne va pas faire une dispute en public ici. Mais la toute première chose qu'on avait une fois fait, c'était Geneviève qui avait une fois ramené un document.
Qu'elle a sorti à Scri de la malle de Benoît que Benoît avait amené ce jour-là.
Oui.
Oui.
En tout cas, c'était un document qui était estampillé SP, avec un numéro derrière, et qui racontait un peu l'histoire du grand-père, très en cours, donc qui demandait le statut de réfugié politique en Belgique.
Ah oui, nous avons une génération de différence avec Manu. Donc quand il évoque son grand-père, il parle de mon arrière-grand-père, Émile. Et la lettre dont il parle, c'est la lettre de la mallette verte, que vous avez entendue dans l'épisode précédent.
Et... oui, de fil en aiguille, en cherchant à quoi était lié ce numéro sur ce document, on s'est rendu compte que c'était un numéro de dossier. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y aurait d'autres choses dans ce dossier? Et donc, et puis, ben voilà.
Mais fallait-il le trouver? Donc oui, SP, oui. Ça correspond en fait à l'époque sécurité publique. Et donc tous les étrangers, c'est comme un peu la police des étrangers.
C'est l'ancien office des étrangers actuel.
Non, oui, pas. Et le numéro derrière, c'est un numéro de dossier. Donc chaque personne qui arrivait sur le territoire belge avait donc son dossier qui était traité. Mais fallait-il encore trouver le dossier? Parce que ça date des années 30, quoi. Tous ces dossiers sont maintenant gardés aux archives nationales, ici à Bruxelles, donc qui se trouvent pas loin de la place du Sablon, quoi.
Et quand papa est allé chercher le dossier, on lui a dit, tiens, il y a 3 autres dossiers liés à ce dossier-là. Donc, du coup, il a trouvé 4 dossiers, qui étaient, du coup, les 3 en plus. C'était les 3 des 3 enfants, quoi.
J'ai voulu emprunter les traces de Manu et Catherine et consulter les originaux de ces fameux documents. Mon frère Guillaume m'accompagne aux Archives Générales du Royaume.
Salut Guillaume.
Coucou, ça va?
Ça va. C'est déjà ouvert, tu crois?
Bah, normalement, oui, il est 9h.
Bonjour. Bonjour, on s'inscrit pour aujourd'hui.
Alors, pour vos affaires personnelles, je vois que vous êtes armé.
Oui, c'est un micro.
Pour vos affaires personnelles, vous avez des casiers sur votre gauche.
Ok.
Ça va? Ah. Vous pouvez conserver votre GSM, votre appareil photo,
oui.
Votre PC et prendre votre carte d'identité.
Rien d'autre.
Rien d'autre.
Ok.
Dire que pendant tout ce temps, le secret bien gardé par mon grand-père et ses frères était consultable gratuitement, facilement, aux Archives Générales du Royaume. Il suffisait de donner un numéro de dossier qu'on peut aujourd'hui obtenir via une recherche en ligne et puis de réserver sa place en salle de lecture. Alors j'imagine, dans l'antre de ce bâtiment, tous les autres dossiers, tous les secrets qu'il renferme encore et qui n'attendent qu'à être découverts. Ça donne le vertige. Parmi les autres lecteurs, il y a des historiens, des chercheurs, et puis aussi beaucoup de personnes comme moi, à la recherche d'informations personnelles. Comme cette personne qui fait des recherches pour prouver que son nom de famille s'écrit bien avec un petit 2. Mais bref, revenons à Émile.
Il faudra aussi signer la déclaration de recherche ici.
Oui, ok, merci.
Le dossier d'Émile commence en février 1939, lorsqu'il arrive seul en Belgique. Ses enfants et sa femme sont alors restés à Vienne. La guerre n'a pas encore éclaté en Belgique, mais l'Autriche a déjà été annexée par l'Allemagne depuis le mois de mars 1938.
Donc en fait, ce dossier, c'est des lettres entre Émile ou son avocat qui le représente et l'administration belge. Il demande d'abord des prolongations de son visa, et puis il demande de pouvoir s'établir plus définitivement dans le royaume.
Monsieur l'administrateur, je suis le conseil de monsieur l'ingénieur Émile Sokal, sujet allemand né à Lemberg le 21 octobre 1891.
Mon client est venu en Belgique avec un visa de 15 jours. Ce visa a été prolongé ici jusqu'au 10 mars dernier. Il me signale qu'il a sollicité la prolongation de ce visa.
Mon client n'invoque pas la qualité de réfugié politique puisqu'il n'a jamais milité dans un parti. Toutefois, certains faits que j'expose ci-après l'ont contraint à quitter précipitamment l'Autriche, de sorte qu'il ne lui est pas possible de retourner dans ce pays.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne dit jamais dans sa correspondance qu'il est juif et que c'est pour ça qu'il doit quitter Vienne, parce qu'il me semble, a priori, c'est quand même... Être juif à l'époque à Vienne, ça devait sans doute être le motif principal de sa fuite, mais il n'en parle jamais. Donc peut-être qu'il se méfie, parce que peut-être que le vent est en train de tourner en Belgique et qu'il se dit que l'antisémitisme gagne d'autres pays comme la Belgique et qu'il vaut mieux éviter de le mentionner. Donc c'est pour ça qu'il utilise un autre argument.
Monsieur Sokal est un des plus importants antiquaires d'Autriche. Il était le conseiller artistique de nombreuses églises et ordres religieux. Malgré l'annexion, grâce à son influence, sa notoriété en la matière, le fait qu'il était ancien officier décoré de la Croix de Fer, Monsieur Sokal a pu, malgré l'annexion de l'Autriche, sauver les trésors artistiques des ordres religieux.
Il a pu en sauver ainsi pour environ 30 millions de francs. Je sais pas, est-ce que c'est les nazis qui voulaient obtenir ces objets religieux ?
Un des faits les plus graves que les autorités allemandes reprochent à M. Sokal est le suivant. Le couvent des Prémontrés de Wilton à Innsbruck dans le Tyrol fut obligé, dans les dernières semaines de l'Autriche indépendante, de vendre un célèbre calice d'une immense valeur artistique.
Grâce à l'intervention de M. Sokal, le musée des Beaux-Arts à Vienne a acheté ce calice en se procurant les moyens nécessaires. Le 12 mars 1938, jour de l'annexion de l'Autriche, M. Sokal a pu sauver cette somme pour l'ordre des Prémontrés. Il a ensuite dû quitter l'Autriche pour éviter une mise en prévention pour haute trahison et a acquis par là la qualité de réfugié politique.
En lisant ce dossier, j'ai l'impression de lire un roman. Mon arrière-grand-père a donc sauvé des trésors religieux. Franchement, il y a de quoi être assez fier. J'ai clairement envie d'en savoir plus sur ces sauvetages. Et puis aussi, sur les raisons pour lesquelles cette vente a précipité sa fuite hors d'Autriche. Mais ce n'est pas la seule découverte aux archives. Émile est d'abord arrivé seul en Belgique. Et ses trois enfants ont finalement pu le rejoindre, mais dans des circonstances dramatiques.
Donc là, on est en juin 39, Émile est toujours en Belgique et il demande de faire venir sa femme et ses enfants d'Autriche. Il demande un visa de tourisme pour eux. Le problème, c'est que apparemment, les autorités se rendent compte du fait que il demande un visa de tourisme, mais en fait, il a l'intention bien arrêtée de s'établir dans le royaume. En face de tels procédés, la sécurité publique s'est vue obligée de proposer l'annulation du visa de tourisme accordé à l'épouse. Et il rappelle aussi que Émile doit aussi partir, parce que son visa à lui arrive à expiration. En fait, pendant qu'il échange toutes ses lettres, il reçoit la nouvelle que sa femme est morte à Vienne.
Jusque-là, j'ai surtout été fascinée par l'histoire de mon arrière-grand-père, ses activités de marchand d'art et ses démêlés avec les nazis. Mais à cette énigme s'ajoute celle de la mort mystérieuse de Maria, mon arrière-grand-mère. Comment est-elle morte ? Quoi qu'il en soit, après la mort de leur mère, les trois enfants sont sans protection sur place. Et c'est ce qui leur permet finalement de pouvoir rejoindre leur père. Et là, tout a été très vite. Ils n'ont même pas eu le temps d'assister à l'enterrement de leur mère.
En ouvrant la mallette, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Entre les affaires étranges de mon arrière-grand-père Émile, qui a sauvé des trésors artistiques religieux, son identité juive cachée, et la mort mystérieuse de mon arrière-grand-mère Maria, j'ai des tonnes de questions. En ouvrant la mallette, j'ai tiré sur un fil et la pelote était très, très grosse. Ce fil, il me conduit à Vienne, où mon premier objectif est de retrouver le calice vendu par Émile. Ça fait plus d'un an que j'enquête et que je parle de mes recherches à la famille. Et au fur et à mesure, j'ai rassemblé une petite délégation qui voulait m'accompagner à Vienne dans ce tourisme mémoriel. Il y a mon père, Étienne. Ma tante Geneviève.
Je parle allemand, je vous ramène un calice. Non.
Leur cousine Anne.
Il n'y a pas des bouffons ici.
Et puis ma mère, Annie, qui s'est laissée intriguer par l'histoire de sa belle famille.
Ce dossier du calice, il est arrivé parce que Émile l'a utilisé dans le dossier qu'il a constitué pour justifier le fait que ses enfants devaient venir avec lui en Belgique. Et on ne sait pas très bien pourquoi il a voulu justifier tout le fait que toutes ces transactions de calice étaient légitimes et que quelque part il était victime du régime à l'époque. Je ne sais pas très bien.
Mais il était poursuivi à cause du calice, lui.
Ou parce que sa femme était...
Il a bu le calice jusqu'à la ligue.
Il était juif aussi, quand même.
Oui, mais donc dans son dossier, il ne parle pas du fait qu'il est poursuivi parce qu'il était juif. Il dit qu'il est poursuivi pour haute trahison pour son rôle dans la vente du calice.
Et à partir de là, les imaginaires de chacun se sont emparés de l'histoire.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait aidé l'évêque de Vienne à cacher des biens d'église qui, sinon, auraient été saisis par les nazis pour alimenter leur trésor de guerre.
Attendez, vous en avez... Maman ?
Toutes ces théories sont très influencées par les histoires de spoliation des Juifs par les Allemands, qui souhaitaient alimenter le projet de musée d'Hitler, le Führer Museum. Et c'est évidemment très tentant d'imaginer notre ancêtre comme un héros sauvant l'art des mains des nazis. Mais avant de vérifier cette théorie, j'ai d'abord enquêté sur les origines d'Émile et les raisons de sa présence à Vienne. Son parcours est en fait très semblable à celui de nombreux juifs venus comme lui de Galicie. Il est né en 1891 à Lviv, principale ville de Galicie. La ville s'appelle aujourd'hui Lemberg et appartient à l'Ukraine. Elle se situe à quelques centaines de kilomètres à peine de la ville qui avait sans doute baptisé notre famille, la ville de Sokal. Mais revenons à Lemberg. Lorsqu'Émile y est né, la ville appartenait à l'Empire austro-hongrois. Pendant la Première Guerre mondiale, Émile avait donc combattu dans les rangs austro-hongrois. Il avait même reçu une décoration pour acte de bravoure qui se trouve aujourd'hui dans la mallette verte. Après la guerre, lorsque l'Empire s'effondre, la Galicie revient à la Pologne. Les Juifs sont alors immédiatement victimes de discriminations et de pogroms. Cela provoque une vague d'émigration massive. En tout, ce sont plus de 200 000 juifs sur les 800 000 que comptait la Galicie qui ont fui leur région pour des contrées plus accueillantes. Et l'un d'eux était Émile. Il arrive à Vienne et alors qu'il est ingénieur chimiste, il décide de se reconvertir et de devenir marchand d'art. Et cette reconversion n'est pas un hasard, car le destin des juifs à Vienne était intimement lié à l'essor artistique de la ville. C'est ce que raconte très bien Stefan Zweig dans Le Monde d'hier.
Ce n'est que vis-à-vis de l'art que tout le monde à Vienne se sentait un droit égal. Parce que l'amour de l'art passait pour un devoir de toute la communauté et par la façon dont elle a aidé et favorisé la culture viennoise, c'est une part immense que la bourgeoisie juive a prise à son développement. Les juifs constituaient le véritable public. Ils remplissaient les théâtres, les salles de concert, ils achetaient les livres, les tableaux. Ils étaient partout. Avec leur compréhension plus mobile et moins liée par la tradition, promoteurs et champions de toutes les nouveautés. Les 9/10 de ce que le monde célébrait comme la culture viennoise du 19e siècle avait été favorisé, soutenu, voire parfois créé par la société juive de Vienne. par leur amour passionné de cette ville, par leur volonté d'assimilation, ils y étaient parfaitement adaptés et ils étaient heureux de servir la gloire de l'Autriche.
Devenir marchand d'art, c'était donc pour Émile une activité qui lui permettait de gagner sa place dans la société viennoise et de s'élever socialement. Il ouvre un commerce d'antiquités en 1922 à Baden bei Wien, une banlieue chic du sud de Vienne. Il se spécialise petit à petit dans la vente d'art religieux catholique, peut-être une manière ultime de tenter de s'acculturer et d'effacer ses origines juives. D'après les archives qui décrivent les ventes de l'époque, il apparaît aussi plusieurs fois comme représentant des galeries Sankt Lukas à Vienne. Ce sont des galeries prestigieuses, ce qui me fait penser qu'Émile devait avoir une certaine réputation en tant que marchand d'art. Ces galeries se situent en plein cœur du centre historique de Vienne, juste en face du palais impérial, pas très loin de la Bibliothèque nationale.
La bibliothèque est ici.
Donc à la Bibliothèque nationale, j'ai trouvé pas mal d'archives. Ils m'ont envoyé tout à distance. J'ai notamment trouvé que Émile avait passé une nuit à l'hôtel Métropole de Vienne avec sa femme, Élise.
Pour rappel, la femme d'Émile s'appelait Maria.
Sa femme et
Élise.
Et qu'Élise.
Ah.
C'était supposé être question. Sa femme.
Dieu sait combien de petits cousins-cousines.
Tu ne trouves pas qu'il me ressemble un peu, lui, là-bas?
Mais l'objectif de notre voyage, c'est surtout de retrouver le calice. Et ce calice, il est toujours exposé au Musée d'art et d'histoire de Vienne.
Alors, c'est par ici?
Ok, zwei Senior und drei Jungen.
Oh,
zwei Senior und drei
Jungen. Das ist richtig.
Und drei Studenten.
Mais on n'est pas six, on est que cinq.
Danke schön.
Je trouve qu'en tant que
descendant
de donateur au musée ou de...
On ne serait pas mieux de venir.
Mais dis un peu qu'on va juste récupérer nos biens.
Le musée d'art et d'histoire de Vienne est l'un des premiers musées d'art ancien du monde, construit sur la Ringstrasse pour abriter les collections de la maison des Habsbourg. À l'étage, le musée abrite les œuvres du Titien, de Rubens ou encore de Vermeer et de Rembrandt. Mais l'endroit qui nous intéresse est au rez-de-chaussée, dans une section qui s'appelle la Kunstkammer, l'une des chambres d'art les plus importantes au monde, couvrant plus de 1000 ans d'histoire. Elle abrite les collections des Habsbourg et d'autres objets réunis depuis le Moyen-Âge, dont le fameux calice.
Oui, c'est celui-là.
Le calice de Wilton, ou Wiltoner Kelch en allemand.
Donc, c'est une pièce quand même assez imposante, toute dorée à l'intérieur et à l'extérieur, c'est aussi doré, mais gravé avec différentes scènes dans des médaillons. Ce sont des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Oui, on voit Adam et Ève, là.
On voit Adam et Ève sous le pommier là-bas, mais on voit aussi, par exemple, sur le côté, l'Arche de Noé.
Et donc, ils ont l'air de dire que c'est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, de travail d'orfèvre.
Ça date du XIIe siècle, donc ils ont été réalisés aux environs des années 1160-1170. Et donc ça vient de l'abbaye Wilton, les Prémontrés, c'est ça? Ou Tyrol?
Oui.
Ce calice a quelque chose de magique. En le voyant de cette vitrine, présenté comme une pièce majeure de la collection, je réalise toute sa valeur historique et artistique. Il a traversé les époques, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
Comme c'est richement décoré.
Et il y a près de 100 ans, c'est mon arrière-grand-père Émile qui l'a tenu entre ses mains. C'est comme si ce calice réparait une faille temporelle, comme si il me connectait avec mon arrière-grand-père que je n'ai pourtant jamais connu.
Il n'y a rien qui dit que ça vient d'Émile Sokal, en non. plus.
Mais, non, mais peut-être dans le guide audio.
Tu parles.
Dans le bookshop, tu crois pas qu'ils disent quelque chose de plus?
Est-ce qu'il y a plein de choses à voir dans ce musée?
La tour de Babel de Bruegel. Hein.
pendant que ma famille s'impatiente et visite le reste du musée, je vais rencontrer le conservateur de la section médiévale, Franz Kirchweger.
Hello, nice to meet you.
Okay, I'm Franz.
Je veux lui demander quel a été le rôle d'Émile dans la vente et en quoi il a été d'une aide précieuse. Et puis, pourquoi est-ce que tout cela a fâché les nazis? J'avais de grands espoirs d'y voir plus clair, mais ce fut un peu la douche froide.
The Wilton Chalice is one of the most important ensemble of Romanesque goldsmith's art in the world.
Franz m'a confirmé que le calice était l'une des pièces majeures de la collection du musée. Il a été fabriqué au XIIe siècle pour l'abbaye des Prémontrés d'Innsbruck, un ordre religieux aussi appelé Ordre des Norbertins. Le calice y est resté pendant près de 800 ans. Mais dans les années 1930, c'est la crise économique et l'abbaye fait face à de grandes difficultés financières. Ils sont obligés de le vendre. Franz a été chercher le dossier de la vente du calice dans les archives du musée pour vérifier comment cette vente s'était passée.
Given the archival material that we have here at the museum,
d'après les archives que nous avons ici au musée, Émile Sokal n'a pas vraiment joué de rôle.
Ça commence fort. Franz me montre une seule lettre mentionnant Émile. Il y est décrit comme agent du monastère en novembre 1937, mais par la suite, plus rien.
Ce que nous savons, c'est que les négociations ont eu lieu directement entre le monastère et le musée.
Et ça, ça contredit largement la version d'Émile qui disait avoir joué un rôle instrumental dans la vente. Mais ce n'est pas tout. Émile prétendait aussi que les nazis avaient tenté d'interférer avec la vente et qu'il avait finalement pu sauver la somme de la vente pour s'assurer qu'elle revienne bien au prémontré. Mais ça aussi, selon Franz, ne correspond pas tout à fait à la réalité.
À notre connaissance, les nazis n'ont en aucun cas tenté de bloquer la vente. D'après les archives, il ne s'est rien passé de spécial par rapport à cette vente lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir ici en Autriche à la mi-mars 1938. Les détails de la vente avaient déjà été négociés.
Comme la vente a été bouclée juste avant l'Anschluss, avant l'arrivée au pouvoir des nazis, il n'y a donc rien eu à sauver. La vente s'est déroulée normalement, avec des négociations, un accord et un paiement entre le musée et l'abbaye. Tout simplement. Mais alors pourquoi la version d'Émile est-elle tellement différente?
Peut-être qu'il a inventé son rôle dans toute cette histoire. Sans doute pour convaincre les autorités belges de lui accorder un visa et de lui permettre de rester en Belgique.
Donc non seulement Émile n'a pas joué de rôle majeur dans la vente, mais en plus, il a clairement dramatisé les circonstances de la vente, puisque les nazis ne s'en sont jamais mêlés. D'après le conservateur du musée, Émile aurait donc monté cette histoire de toutes pièces pour obtenir son visa. À ce stade de mon enquête, j'avais pourtant l'impression de commencer à connaître Émile. Et limite, ça va vous paraître étrange d'avoir fini par nouer une certaine relation avec lui. Et là, ben, je me sens un peu flouée. Alors que dans la famille, on s'imaginait Émile en sauveteur de l'art, je réalise maintenant qu'il était peut-être juste un très bon affabulateur. Mais cette découverte, elle ne fait que renforcer ma curiosité. J'ai l'impression qu'Émile me lance un défi pour que je continue ma quête sur ses traces. Parce que je ne vais pas m'arrêter là. Il y a une autre piste à explorer. Dans le dossier des Archives Générales du Royaume, Émile a joint à ses documents une attestation de l'abbaye des Prémontrés qui dit qu'il leur a bien rendu des services exceptionnels. J'avais eu la version des acheteurs, mais il fallait maintenant connaître la version des vendeurs. À l'abbaye des Prémontrés, à Innsbruck. La Mallette Verte est un podcast réalisé par Perrine Sokal. Une production du Xara ASBL, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pour en savoir plus sur les recherches et sur le contexte historique, rendez-vous sur le compte Instagram La Mallette Verte. Merci au Wiener Ensemble de la Mozart House pour son interprétation du Beau Danube Bleu de Johann Strauss.
Retrouvez Paroui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.